Et on passe à notre prochain orateur, président de la société Henri Dumont, de la société Louis Apial, de la société Théodore Monnoir, de la Fondation Gustave Adolphe, de la Fondation Prix Henri Dumont de Genève Humanitaire, auteur, éditeur d'une quantité de livres et d'articles, l'auteur a fait le personnage et œuvre d'Henri Dumont, instigateur de plaques commémoratives, organisateur de colloques et voyages d'études, je pense que vous devinez de qui je parle, et je passe la parole à Roger.
Merci, Rainer. Oui, alors, en parlant de plaques commémoratives, elle est où? Ah, oui, quand même. Regardez-moi ça. La ville de Genève mettait en vente un certain nombre de plaques et après des enchères frénétiques, nous avons dû l'avoir. Ça, c'est une plaque qui n'a pas été dévissée par une nuit d'orage avec plusieurs conspirateurs. Elle est tout à fait officielle. Elle est un tout petit peu moins intéressante qu'une plaque qui a très pénigré. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur ce mur, mais de l'extérieur, il y a une plaque en Dumont, et c'était notre ami Rainer Schlosser qui, une fois, nous l'avait offerte. Et qui m'avait dit qu'elle venait de Verdun, je crois.
Oh, de Sedan.
Sedan, peut-être Sedan.
Je ne sais pas si.
Voilà, c'est ça. Donc, et maintenant, nous attendons de savoir si nous avons obtenu la plaque Gustave Moynier, les enchères terminées à midi. Mais moi, je ne sais pas regarder Ricardo. Bon, ce sera une bonne nouvelle pour peut-être lundi déjà. Donc, je suis appelé à vous parler de Louis Apia, de la société évangélique. Alors, je suis forcé de vous dire que tout d'abord, je ne serai pas du tout objectif, puisque vous avez appris que mon grand-père Charles Durand-Panot était pasteur, notamment au Tilancy, et puis que mon arrière-grand-père a été formé à l'école de théologie, et qu'ensuite il était pasteur en Belgique pendant presque 25 ans, à Liège, un des lieux les plus intenses du catholicisme romain, et puis qu'ensuite il est revenu à Genève, et que depuis les années 82-83, Il a servi dans la société évangélique. Donc, j'ai des liens personnels, d'ailleurs, qu'on connaît très mal dans notre famille, que je connais très mal, mais qui certainement faussent mon jugement. Mais ce n'est pas trop grave, parce que j'ai essayé de recueillir uniquement les informations que je pouvais trouver dans les procès-verbaux des assemblées générales de la société évangélique, qui se tenaient toujours au mois de juin, et qui débouchaient sur une centaine de pages, écrites encore 10, d'une fidélité formidable, avec les discours, avec les membres correspondants, et aussi avec les finances. Et un jour, il faudra vraiment qu'on étudie ces finances qui sont extrêmement impressionnantes. L'argent venait de partout, et les apports étrangers étaient en tout cas égaux aux apports locaux. C'était fantastique. Bon, c'était l'époque où la livre sterling valait 25 francs, n'est-ce pas? Donc, les dons écossais et anglais étaient particulièrement importants. Je vais essayer de vous présenter trois aspects, trois dimensions. Une très courte, c'est de rappeler qui est Apia jusqu'au moment où il entre dans la société évangélique. Ensuite, ce qu'on trouve sur lui dans ces fameux procès-verbaux. Et enfin, qu'est-ce qu'a signifié l'appartenance de Louis Apia à la société évangélique pour sa propre intégration, pour son propre équilibre personnel. Donc, vous le savez, il est né en Allemagne. Il a passé son enfance, sa jeunesse, principalement à Francfort, qui était une ville de culture et une ville de politique de très grande d'importance allemande, et que son père, Paul, pasteur, avait là-bas une position considérable. Je dois vous avouer que je ne sais pas exactement l'affiliation ou les tendances théologiques de Paul Apia, mais tout nous permet de penser que comme il venait des vallées vauloises du Piémont, c'était aussi un homme du réveil. Et donc Louis Apia mène une carrière brillante comme, comme collégien, mais il est intéressant de savoir qu'il quitte Francfort pour Genève au moment où il a fini son, on peut dire son collège pour passer son 2 ans à l'Académie de Belles-Lettres à Genève, où il obtient ce sorte de certificat propédeutique qui permettait aux jeunes d'entrer dans des académies ou dans des universités. Et vous le savez, il fait sa médecine brillamment à Bonn, puis à Heidelberg. Il sera médecin à Francfort. On apprend déjà là qu'il fonde avec trois amis un hôpital ophtalmique pour des personnes pauvres et nécessiteuses, donc une vocation humanitaire que son père avait déjà ouverte lors de la guerre de Hanau en 1813. Il est chirurgien de guerre, on croit savoir qu'il va soigner des blessés à Paris puis à Francfort en 48, mais surtout 48 c'est un et le début de l'année 49, c'est une année noire pour lui, puisqu'en janvier, il perd son père, qui avait exercé quand même 31 ans de ministère à Francfort. Et puis surtout, lui, citoyen libre de la ville de Francfort, ou citoyen de la ville libre de Francfort, il perd en fait sa liberté, puisque c'est le moment où en fait Francfort est contrôlé par l'armée prussienne, après les troubles de 48-49. Et j'ai toujours envie de dire, même si je choque certains membres de la famille Appia, que Louis Appia est un réfugié politique. Ça veut dire que dans l'été 49, il décide de quitter Francfort et il essaye de s'installer à Genève parce que on pourrait dire que ses racines idéologiques sont coupées par le changement de statut de l'Allemagne dès 49. Et vous le savez, il s'établit à Jussy, donc il commence par aller à la campagne. C'est à la fois grisant et à la fois un échec, puisque en 53, donc moins de 4 ans après, il est chassé, hein, on le renvoie à Jussy, il faut dire les choses comme elles sont, mais il est tout de suite bien installé à Genève, notamment introduit par son beau-frère. Parce qu'il faut dire qu'en 1953, d'un côté, il se marie avec Anna Lasser, petite fille du banquier lombard, et ça c'est déjà un solide élément d'intégration. Et puis en 1953, il va s'établir comme médecin à Genève, en premier chez son beau-frère, et puis après il volera de ses propres ailes. Et pour nous, cette année est importante parce que lorsqu'on étudie la famille Lasser, donc Lasser Lombard, on voit que c'est un nid de, j'ose plus employer le terme de bombier, mais c'est un nid de membres extrêmement actifs de la société évangélique. Alors, nous n'avons pas de texte de Louis Appia sur sa foi, sur sa conversion, puisque Valérie nous a rappelé que c'est une église de personnes qui ont affiché leur leur passage au nouvel homme, mais tout nous permet de penser qu'il en fait partie. Alors, si on regarde ces procès-verbaux, je n'ai plus commencé qu'en 1957, mais nous savons que déjà en 1953, avec ce mariage, Louis Appia, en choisissant Anna Lasser, il ne peut rien faire d'autre que de choisir la société évangélique. C'était inimaginable qu'il aille dans l'Église nationale à ce moment-là, quand on pense aux tensions qui existaient entre ces deux institutions. Parce qu'il y a quand même un point fondamental, mais il y en a d'autres, et puis les théologiens en parleront mieux que moi, mais c'est l'attitude du chrétien devant la Bible. Et pour les hommes et les femmes du réveil, pour les évangéliques, il y a quand même le fameux sola scriptura, c'est la Bible, que la Bible, seulement la Bible, et rien d'autre. alors que dans l'Église nationale, on avait ce courant rationaliste où on interprétait, on mettait en contextualisation, où on se permettait toute une série de simplifications, on parlait moins des miracles, on parlait moins du diable, on parlait moins des esprits, etc., etc. Donc il y a véritablement l'un des enjeux idéologiques de foi qui était extrêmement important. Alors, nous avons la première trace, on pourrait dire, documentée, toujours par rapport à ces procès-verbaux, c'est 1857, où nous apprenons que Monsieur et Madame Akia Lasserre font un don pour l'école des jeunes filles au bourg de Four. Alors, Akia Lasserre, ça ne peut être que Louis et son épouse Anna. Donc là, j'ai pas eu accès encore pour l'instant, je peux vous promettre que c'est long à lire. Des années précédentes, on va encore trouver quelque chose. Bon, là, on est sûr. Mais il faudra attendre 5 ans, en 62, pour que nous découvrions que Louis Appia fait désormais partie des membres adjoints au département du comité général. Et lui-même entre dans le département de l'évangélisation à l'intérieur, dont Valérie nous a parlé. Et cette date est importante, 62, parce que sans vouloir vous mordre sur la suite, ça va être son engagement pendant toute sa période à la société évangélique, et c'est par dizaines d'années. En 68, il monte en grade, si j'ose dire, parce qu'il devient enseignant à la fameuse école préparatoire. Et il donne des cours d'anthropologie et de physiologie. Donc nous nous rappelons, Valérie l'a évoqué, c'est que la société évangélique avait mis au point un dispositif, on pourrait dire, intégral. C'est-à-dire qu'il s'agissait de prendre des jeunes gens qui sortaient de l'école primaire et qui n'avaient pas forcément de formation secondaire et de leur donner, en cours accéléré, une sorte de baccalauréat ou de maturité avec des disciplines comme l'astronomie, j'aimerais bien savoir ce qu'on leur enseignait, mais aussi la géographie, l'histoire, les mathématiques, la géométrie. Et alors lui est donc chargé de cette science qui, nous dit Wikipédia, est articulée entre les sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, biologie, sociologie, culture, linguistique, etc. Et la physiologie, le second volet de Louis Appia, c'est tout ce qui concerne l'activité de l'organisme ou du corps humain. Et on voit très bien un docteur en médecine qui donc donne des cours de physiologie à l'école préparatoire. Et je cite par exemple le rapport de 1869. Quant à l'école préparatoire, le programme publié en juin dernier a été rempli. Rappelons seulement que nous devons à la bienveillance prolongée de M. le Dr Appia un cours d'anthropologie et de physiologie, étude d'autant plus précieuse que les sciences physiques et naturelles, cultivées avec éclat dans notre Genève, n'ont pu être que faiblement introduites chez nous. Donc on peut vraiment dire que l'arrivée de Louis Appia, c'est le volet scientifique de la formation secondaire qui est installé. C'était en 68. Alors, ces cours doivent être acceptés et même appréciés puisqu'ils montent en grade. Et en 1870, nous apprenons qu'il est membre du comité général, c'est-à-dire qu'il est tout en haut, et il est élu pour 10 ans. Ça fait un mandat. Et nous voyons par exemple qu'il offre à la bibliothèque des livres. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en 1870 et la question c'est quel livre est-ce qu'il a pu offrir. Alors c'est très probablement La guerre et la charité qui venait de paraître en 1867 et qu'il avait écrite avec Gustave Moynier. Donc nous le voyons très bien installé. L'intéressant aussi, c'est qu'en cette année 1870, entre comme membre associé, donc ce n'est pas encore la nomination tout en haut, d'un certain Max Perrot. Or, Max Perrot, c'est le cofondateur de l'Union chrétienne de jeunes gens de Genève, 1851-1852. Et là, on est en 1870, 18 ans après. Alors que, nous le verrons, les unions chrétiennes ont été considérées comme un des bras actifs de la société évangélique. Donc notre Louis Appia est maintenant installé, il est au comité général, il est au département de l'évangélisation intérieure, et il y a l'année 1870-71, c'est une année extrêmement chaude et aussi extrêmement intéressante. Et nous apprenons que, à leur grand dépit, les membres de la société évangélique ont appris que désormais, il y aurait une interdiction toute l'Allemagne, d'aller évangéliser les prisonniers de guerre. Et je pense que ça avait dû remonter au début de l'année septembre. Alors, on entend le commentaire est assez intéressant. Nous n'entendons nullement jeter la pierre aux autorités allemandes au sujet de ces mesures. En tout cas, à supposer qu'elles fussent à blâmer, elles l'auraient été conjointement avec les autorités françaises et avec les autorités suisses, lesquelles, nous en avons fait l'expérience, ont opposé de toute leur force des entraves à l'évangélisation des internés. Donc, naturellement, ça intéressait beaucoup Louis Appia, parce que vous savez que lui avait un tout petit peu de problème quant à la neutralité de son intervention comme médecin ou comme représentant du comité international. Et que on l'a su, notamment pour 1866, où dans l'ambulance qu'il dirige, on distribue des traités, des petits textes d'évangélisation en italien aux soldats de l'armée de Bourbaki. Pour l'école de théologie, on apprend une autre information intéressante. Monsieur le docteur Appia, qui, à peine revenu des ambulances, s'est empressé de reprendre le cours qu'il donne à nos élèves avec tant de bonté. Et il n'y a pas souvent des thèmes sympathiques, chaleureux dans ces rapports. Là, on voit que les deux fois où on nous parle d'Appia, on nous parle comme de façon assez, disons, même très, très, très positive. Alors, ça nous apprend qu'il continue ses cours, qu'il les avait interrompus, parce que vous savez qu'il était dès la déclaration de la guerre, il était parti contre la volonté du CICR pour aller soigner des blessés dans les armées allemandes, et qu'il avait suivi une armée pendant de très longs mois, et qu'il avait même entraîné son neveu Frédéric Ferrier. Son neveu, qui n'avait même pas encore commencé sa médecine, qui avait juste commencé. Il était tout jeune. C'est ça. Donc il l'avait entraîné, c'était son neveu. Comme l'a dit Valérie, on est souvent dans des affaires de famille, dans ces milieux-là. Et c'est intéressant cette allusion aux ambulances, parce que effectivement, le comité international était très préoccupé, parce que Louis Appia, membre du comité qui était connu en Allemagne comme le loup blanc, n'est-ce pas, en tant que cofondateur du comité international de la Croix-Rouge, il s'affichait aussi comme membre du comité international, alors que aucun autre membre du comité international n'était du côté français. Donc il y avait un déséquilibre dans la présence du comité international, donc la position neutre était rompue, d'autant plus que pour Gustave Moynier, ce n'était pas la tâche du comité international que de soigner les blessés. Ça, c'était la tâche des sociétés nationales ou régionales. Louis Appia, quand il va sur un champ de bataille, c'est pour soigner des blessés, c'est pas pour distribuer des traités sur la croix. C'était donc 70-71, et on voit que ça a dû convenir, puisque l'année suivante, nous apprenons qu'il entre dans la direction de l'école de théologie. Alors, ça, c'est un petit peu bizarre, parce que moi, je m'attendais plutôt que ce soit à l'école préparatoire, mais peut-être que ça voulait dire l'école préparatoire. Parce que, en tout cas, on ne le voit jamais assumer une fonction théologique directement. Nous allons sauter quelques années, parce que chaque année, il est confirmé dans ses fonctions, on le répète, etc. Donc ça, c'est tout à fait facile. En 78, on a un détail intéressant. Le pasteur Fallot, qui était délégué de la Société des Missions à Paris, fait la déclaration suivante. « J'ai le privilège, tout en étant pasteur indépendant, de travailler l'œuvre de M. Mac Hall. Et, comme industriel, j'ai pu visiter les populations ouvrières. J'ai vu un abîme creusé entre le peuple et l'Évangile. Et j'ai senti cette profonde douleur de voir des troupeaux sans berger, conduits par quelques charlatans ambitieux qui disent de grands mots auxquels ils ne croient pas. » Donc l'œuvre de Mac Hall est intéressante. C'était donc un pasteur écossais anglais qui arrive à Paris juste après la Commune et qui fait le constat que les classes dirigeantes, quoi, soit politique, soit scientifique, soit religieuse, ont complètement abandonné la classe ouvrière. Et que la classe ouvrière a notamment été séduite par les propositions de la Commune. Et il y a donc là un vide immense, et ce pasteur Macron se décide, avec son épouse, de faire de l'évangélisation dans la région parisienne, et il est absolument dans la ligne du réveil, et il va lancer un mouvement extrêmement intéressant et important. Je remercie Valérie qui m'a donné des tuyaux sur ce Macron. Et maintenant, j'ai lu qu'il y a au moins 4 pages entières dans Wikipédia sur l'opération Macron. Elle a eu un retentissement considérable. Ça nous intéresse pourquoi ? Parce que dans une lettre à son frère Georges, Louis Herpia, on est à peu près à la même période, lui dit « Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Macco ?» Je crois qu'il l'appelle ainsi. À ce moment-là, Georges est établi à Paris. Et c'est pour nous peut-être aussi un indice que, la démarche Mac Hall intéressait la société évangélique, mais intéressait aussi Louis Appia. Je vous en parlerai après dans la conclusion. Toujours en 78, on a une phrase du rapporteur de l'évangélisation à l'intérieur qui est intéressante. C'est le pasteur Brochet. Une condition importante à remplir, c'est que nos traités soient bien choisis, qu'ils soient un peu apparents, l'adjectif est joli, autant que possible illustrés, et qu'ils contiennent des histoires intéressantes qui préparent à accueillir le vrai remède, l'Évangile. Or, exactement au même moment, dans la lettre à Georges, Louis Appia lui dit « Il faut qu'on prépare pour Noël un recueil de récits sur Noël qui soit attrayant et qui soit bien illustré. » C'est exactement au même moment. Et donc, c'est tout à fait dans les techniques de communication des colporteurs. Juste un tout petit détail en chiffres. Régulièrement, on nous donne les chiffres des almanachs distribués ou vendus, je ne sais pas. C'est 120 000 almanachs qui sont placés en France par les colporteurs. C'est donc des chiffres extrêmement élevés et il apparaît quasiment toutes les années. Donc cette diffusion était très très forte. 1880, nous apprenons que Louis Appia est réélu au comité général pour 10 ans. Et on a l'année suivante, deux informations qui nous font tout de suite penser à l'action directe de Louis Appia, parce que autrement on le nomme pas, mais on nomme pas d'habitude les membres du comité dans leur activité. Et nous lisons une sorte de rétrospective, puisque c'est les 50 ans de l'institution, le rapporteur dit qu'il y a eu trois grands moments. C'est 1842, les troupes de la Révolution à Genève, qui ont permis d'avoir eu une influence forte sur un tas de personnes qui étaient secouées. Donc Genève a connu une petite révolution en 1941-1942 qui au fait a été phagocytée par la droite, et ce qui a donné la révolution de 1946, qui celle-ci, alors je peux vous dire, elle était rude et très, très énergique. Et là, donc c'est le temps, c'est 1842. Ensuite on a 1856, et alors là c'est intéressant. La seconde phase coïncide avec l'appel d'un nouvel évangéliste en 1856. C'était le moment de la construction des chemins de fer auxquels travaillaient de nombreux ouvriers. Et nous avons une lettre, de nouveau à Georges, relative à cette période de 1856 où le choléra sévit à Genève et aussi je crois que c'est Naples où réside alors Georges, et Louis Appien essaie d'expliquer à son petit frère, parce que vraiment c'est le grand frère qui parle au petit frère, c'est le médecin qui parle au pasteur, il lui dit « Fais attention à ton alimentation, à qui tu vois, comment tu te protèges, parce que, et lui raconte qu'il a été envoyé par le conseil de santé justement au bord du Rhône, dans la région de Chancy, où se trouvent les fameux ouvriers du chemin de fer. On est en train de créer la première ligne de chemin de fer entre Lyon et Genève, et où le choléra fait des dégâts épouvantables. Mais là, Louis Appia y est envoyé en tant que représentant de la santé publique, on peut dire. Mais il est tout à fait au courant de ce qui se passe, et c'est intéressant de voir que, comme par hasard, à ce moment-là, la société évangélique envoie un nouvel évangéliste, parce qu'il y a là un public qui est certainement vulnérable, j'allais dire quasiment captif, parce que les ouvriers qui construisaient une ligne de chemin de fer n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre, ils étaient parqués dans des camps tout près des chantiers. Et toujours sur cette récapitulation des trois temps forts, le troisième temps fort, c'est 1870, où on lit, enfin, en 1870, l'œuvre reçoit un redoublement d'activité par les événements qui amènent tant de blessés et de prisonniers français, ainsi qu'une nombreuse population exilée sur notre sol. Nos évangélistes se multiplient et redoublent de zèle dans la distribution des traités, les visites à domicile et les réunions de quartier. C'est encore la partie la plus originale du travail de nos deux frères qui, depuis de longues années, sont à la brèche et apporte le même entrain joyeux au service du Seigneur. Bah, 1870, c'est exactement le grand moment d'engagement de Louis Appia dans les armées prussiennes et ensuite auprès des prisonniers de guerre. Donc nous sommes arrivés en maintenant 81, ça veut dire que nous avons deux bonnes décennies d'engagement, c'est très bien. Je vais juste maintenant essayer de situer cet engagement de Louis Appia au sein de la société évangélique par rapport à ses relations avec Genève. Parce que, contrairement à ce qu'on a pu croire, ses relations n'ont pas été bonnes. Et Louis Appia, d'après l'impression que j'en retire, n'a pas été heureux à Genève. Et pourtant, donc on a vu qu'il a une formation en Allemagne, mais je n'ai pas insisté sur le fait que ensuite, ça a été un grand voyageur. Louis Appia est toujours en déplacement, soit pour des réunions de la Croix-Rouge, soit parce qu'il y a une guerre, il faut aller soigner les blessés de guerre, soit il faut aller faire de la mission pour le CICR. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il essaye d'avoir une intégration extrêmement forte à Genève. On a vu, il s'est marié en 1953 avec une bonne genevoise, une bonne famille genevoise. Cinq ans plus tard, il est membre de la Société genevoise de géographie, fondée par Henri Dunant. et le général Dufour, on retrouve des noms. Et puis, Moynier va rejoindre une année après. Pour Monnoy, je ne l'ai pas retrouvé. Mais on en a à quatre quand même, c'est 58. Il entre à la Société d'utilité publique, où il y a Dufour, où il y a Moynier, où il y a Appia, où il y a Monnoy. Il y a juste du nom qui n'est pas à l'époque. Hein. Mais en 61, il est président de la Société de médecine, ce qui est aussi une progression assez remarquable pour un médecin qui débarque en 49 et qui est encore jeune. Et nous voyons qu'en 62, eh bien, il arrive au comité général de la société, donc de la société évangélique, et que depuis ce moment-là, il aura cet engagement. Et ce n'est qu'après qu'il y a l'épisode fondation de la Croix-Rouge, hein, c'est 63-64. Donc, on peut dire que les liens tissés par Louis Appia dans son effort d'intégration à Genève, soit avec Henri Dunant par la fondation du CICR ou la fondation de la Société de géographie, mais on a aussi une lettre de Louis Appia envoyée à Hanau, à la Wetterauische Gesellschaft, je prononce très mal, mais c'était la grande société savante de Hanau, où Appia recommande Henri Dunant pour devenir membre correspondant de cette société. Donc les liens sont très forts. Max Perrault, cofondateur de l'Union chrétienne avec Henri Dunant, eh bien, on le retrouve aussi à la société évangélique. La famille Lasserre, je n'ai pas besoin de vous en parler, mais quelle est l'étoile montante au CICR dès les années 80? C'est un certain Gustave Adore, qui est le neveu de Gustave Moynier, et qui, depuis ce moment-là, prend une place toujours plus importante. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre en 1880? C'est que Louis Adore, le père de Gustave, est un donateur fidèle de la société évangélique, et que Gustave Adore lui-même, depuis ce moment-là, fait des dons généreux à la société évangélique. Il y a une concordance qui est assez intéressante, parce qu'il faut se rappeler que Louis Appia, il est membre du comité international. C'est un des vieux, des deux piliers, si l'on peut dire. Et donc, on peut dire que ces liens avec les humanitaires sont très forts. Curieusement, en tout cas, par le canal de la société évangélique, on ne trouve pas Gustave Moynier, on ne trouve pas Théodore Monnoy et on ne trouve pas le général Dufour. C'est étonnant, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, nous dirons que la société évangélique, pour celui qui a fait un second doctorat en médecine à Paris, alors qu'il avait 60 ans, et qu'on peut penser qu'il essayait d'aller se déplacer sur Paris, pour celui qui était allé au Caire deux fois, pour essayer de convaincre le Khedive d'adhérer à la Convention de Genève, mais qui voulait aussi fonder là-bas une école pour chirurgiens de guerre et un hôpital ophtalmique, pour cet homme qui, manifestement, n'était pas très heureux à Genève, la société évangélique a peut-être servi de socle minimal pour son bien-être dans notre République. Je vous remercie.